بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يرحمك الله Chers frères, hier on avait vu اهدنا الصراط المستقيم guide-nous dans le droit chemin et donc là on complète inshallah la Fatiha صراط الذين أنعمت عليهم le verset 7 صراط الذين أنعمت عليهم le chemin de ceux que tu as comblés de faveur. Cette phrase, ce verset, c'est l'explication, on va dire, c'est le détail du verset اهدنا الصراط المستقيم. Parce qu'on retrouve le même terme صراط, اهدنا الصراط المستقيم. Et là, lorsque le septième verset démarre, c'est صراط الذين أنعمت عليهم. C'est-à-dire que donc ce verset explique, donne les détails. C'est quoi le droit chemin? Et on avait essayé d'expliquer plus ou moins اهدنا الصراط المستقيم. Et donc, dans le verset 7, il y a l'explication. On avait dit que le صراط المستقيم, c'était le chemin des personnes qui acceptent l'islam. Le chemin des personnes qui adorent Allah, qui suivent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui suivent l'exemple des khulafa ar-rashidin. Toutes ces explications, on l'avait donné hier. Et donc, c'est la définition par excellence du chemin emprunté par chaque croyant, le chemin de ce que tu as comblé de faveur. Et à travers ce verset, les Mufassirin, rahimahumullah, ils expliquent, ils rappellent encore une fois que la guidée est une faveur de la part d'Allah. Autant on demandait à Allah de l'aide pour faire l'ibadah, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, autant on demandait à Allah la guidée, hein, de rester dans le droit chemin, ihdina as-sirata al-mustaqim. Donc, sirata alladhina an'amta alayhim, les gens que tu as comblés de tes faveurs, ça veut dire que quand on est dans le droit chemin, quand on est musulman, quand on a la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah dans notre cœur, quand on suit les ordres d'Allah, quand on obéit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans tout le sens du terme, comme on avait vu hier, at-ta'a, c'est quoi? L'obéissance envers Allah, c'est l'accomplissement de bonnes œuvres et en même temps, l'éloignement du haram, délaisser ce qui est interdit. Donc quand on est dans cette situation, quand on fait partie des gens, ça veut dire qu'on fait partie des gens à qui Allah a comblé de faveur. On fait partie des alladhina an'amta alayhim, les gens qui ont eu des ni'ma. An'amta, on retrouve la racine nun ayn avec mim. Ni'ma, ni'am, ce sont les bienfaits. Donc quand on est dans le droit chemin, quand on est alhamdulillah dans l'islam, on suit les ordres d'Allah comme on a dit, c'est là un ni'ma de la part d'Allah. On fait partie des gens qui ont eu les bénédictions de la part d'Allah. Et quel plus grand ni'ma que la guidée, mes chers frères? Quel plus grand ni'ma que la guidée, que la hidayah, que le fait d'être parmi les ahlul iman, ahlul tawhid? Il y a des gens qui n'ont pas eu ce ni'ma de la part d'Allah. Ils font partie des ahlul shirk, des gens qui adorent autre qu'Allah, ou des mulhidin, des gens qui n'adorent rien du tout, des gens qui se disent athées, na'oudou billah, qui osent penser que tout existe par soi-même, c'est la nature, c'est dame nature, ou mère nature, je ne sais pas qui ça, ou grand-mère nature, je ne sais pas qui ça de famille encore. Des gens qui osent proclamer qu'il n'y a pas de créateur, alors qu'ils ont beaucoup d'autres bienfaits, mais des bienfaits qui sont secondaires, des bienfaits de seconde zone. Il est respecté, il a un poste, il a tel poste, tel rang dans la société, ou alors il a tel diplôme, ou alors il a beaucoup d'argent, il est issu d'une famille noble, en guillemets riche, et ainsi de suite. Donc, il faut en aucun cas, être admiratif de quelqu'un qui a des bienfaits, qui a de l'argent, qui a la richesse, qui a l'honneur, qui a tout ça, mais qui n'a pas iman. Ce serait une preuve d'ingratitude envers Allah. Alors qu'Allah nous a accordé ce qu'il y a de meilleur, et on ne prend pas considération de ce trésor qu'Allah nous a donné, c'est la clé du paradis, oui ou non? La ilaha illallah, c'est pas miftahul jannah? Est-ce que miftahul jannah, la clé du paradis, est-ce que ce sont les diplômes? Est-ce que c'est le master? Est-ce que c'est le doctorat? Est-ce que c'est tel poste? Est-ce que c'est tel poste de directeur de cadre A ou je sais pas, cadre A plus, A, je ne sais pas quoi. C'est ça la clé du paradis? Est-ce que la clé du paradis, c'est avoir un compte en banque avec plein de zéros? Non, la clé du paradis, c'est la ilaha illallah. Donc, quand on fait partie de alladhina an'amta alayhim, les gens qu'Allah azza wa jal a comblés des bienfaits, on doit être reconnaissant envers Allah. Un, on doit agir en conséquence, c'est-à-dire entretenir ce bienfait et faire en sorte que jamais on ne le perde. D'où le doua ihdina sirat al-mustaqim. Et ce qu'on avait vu hier, ihdina, c'est dans le sens de Allah guide-nous et accorde-nous al-thabat, al-mudawama, al-istiqama, la constance, la fermeté, la rectitude jusqu'à al-maut, jusqu'à la mort avec la foi al-maut al-iman. Et ça, c'est le plus grand cadeau qu'Allah peut accorder à un croyant, que de vivre dans la foi jusqu'à la mort et mourir avec la foi. Vous savez quel grand ni'ma aussi Allah peut accorder à quelqu'un? C'est une personne qui vieillit dans l'islam. Il y a que quelqu'un de la barbe blanchie dans l'islam. Il y a quelqu'un qui, mashallah, reste dans le droit chemin et qui devient âgé. Et qui meurt âgé dans l'obéissance d'Allah. C'est-à-dire qu'il a cumulé des années, des années, des années. On va dire, par rapport à l'espérance de vie de notre époque, quelqu'un qui a vécu jusqu'à 85, 90 ans, 95 ans avec iman. Ça, c'est également un grand bienfait de la part d'Allah. C'est encore mieux qu'une personne qui meurt à 35 ans, 40 ans, même avec iman. Parce que la personne a pu cumuler plus d'années avec iman. Une petite parenthèse, quand ça, même en français, on le dit, mais très souvent en arabe, il y a une expression qui dit qu'Allah t'accorde longue vie. Mais là, je me rappelle qu'il y a des fois où on dit aussi Allah t'accorde longue vie, qu'Allah t'accorde longue vie. Il ne faut pas uniquement demander qu'Allah t'accorde longue vie. Les ulama, ils expliquent, quand on donne ce doigt à une personne, c'est un bon doigt, hein. Ça veut dire qu'Allah ne te donne pas la mort maintenant, que tu vis longtemps. Ou certains disent qu'ah, ou ça vive longtemps. Bon, ça, c'est pas. Après, parfois, il y a superstition, il dit qu'il me vient de cause d'où l'arrivée, il dit où ça vive longtemps. Ça, c'est autre chose, hein, je ne parle pas de ça. Mais quand on dit une personne donne doigt qu'Allah accorde longue vie, il faut dire qu'Allah t'accorde longue vie, fit-ta'a, dans le droit chemin. Ça, c'est le bienfait. Parce que vivre longtemps, si c'est pour vivre n'importe comment, vivre tard, ça ne sert à rien. Vivre longtemps dans le droit chemin, oui. Mourir à dhu shayba fil islam, ça c'est un grand bienfait également, un bienfait encore plus complet de la part d'Allah Azza wa Jal. Il ne faut pas qu'on se perde, parce qu'on doit compléter le verset 7 qui est le verset le plus long. Donc, la définition de ihdina sirat al-mustaqim, c'est sirat al-ladhina an'amta alayhim. Maintenant, si on veut une définition encore plus détaillée de sirat al-ladhina an'amta alayhim, nous avons le verset de lequel Allah Azza wa Jal dit wa man yuti' Allah wa ar-rasul, ceux qui suivent Allah et son prophète, fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allah alayhim. Et en ce sens, hein, j'ai pas la traduction. Voilà, ces personnes-là sont avec ceux qu'Allah Azza wa Jal a honoré, a comblé de ses bienfaits, min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin, parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les salihin, les gens pieux. Ce verset de la sourate An-Nisa, c'est un tafsir encore plus précis de ihdina as-sirat al-mustaqim. Donc premier degré, on a ihdina as-sirat al-mustaqim. C'est quoi as-sirat al-mustaqim? Ben c'est sirat alladhina an'amta alayhim. C'est qui encore? Donnez-nous des détails sur as-sirat alladhina an'amta alayhim. C'est les gens an'ama Allah alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin. Et donc nous, on a espoir de faire partie soit des shuhada, des siddiqin, ou alors des salihin, des gens qui sont pieux. N'est-ce pas là quelque chose d'accessible? An-nabiyyin, non, bien sûr, mais as-salihin, les gens qui sont pieux. Hada. Donc sirat alladhina an'amta alayhim. Et Ibn Kathir rahimahullah cite dans son tafsir d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma, dans lequel il dit, faut savoir quel était le surnom de Ibn Abbas. Hablul Ummah, la corde de la Ummah. C'était le plus grand mufassir de cette Ummah. C'est celui à qui Allah Azza wa Jal avait accordé le plus de ilm, le plus de connaissances, le plus de tafaqquhu fi din, le plus de compréhension de la religion. Une fois, Ibn Abbas radiyallahu anhuma avait reçu ce doua de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était jeune. Allahumma faqqihhu fi din wa 'allimhu 'ilm at-ta'wil. Oh Allah, accorde-lui la faqqihhu, accorde-lui, comment pourrait-je dire, subhanallah, il y avait un terme un petit peu plus savant en langue française, un peu plus précis, accorde-lui, on va dire, la compréhension, hein, pour faire simple, la compréhension de la religion. وَعَلِّمْهُ عِلْمَ التَّأْوِيلِ Ou Allah, et accorde lui la science de التَّأْوِيلِ. Et التَّأْوِيلِ, c'est التَّفْسِيرِ. La science des commentaires, l'exégèse du Coran. C'est pour ça qu'Ibn Abbas, c'est le plus grand spécialiste de tafsir du monde, jusqu'à la fin des temps. Et donc, pour venir, Ibn Abbas, radiallahu anhuma, commente le verset, Sirat al-ladhina an'amta, il dit que, an'amta alayhim, que tu as comblé, comment? Que tu as comblé de quel bienfait? Quand on dit, Sirat al-ladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblé de tes bienfaits. Mais dit, de quelle façon Allah leur a comblé de ses bienfaits? Quels sont ses bienfaits? Ta'atika, le fait qu'ils t'obéissent. Wa ibadatika, le fait qu'ils fassent ton adoration. Parmi les malaïka, parmi les prophètes, parmi les véridiques, parmi les martyrs, parmi les gens pieux, comme Allah Azza wa Jalla le dit dans le Coran, le verset qu'on a cité tout à l'heure, wa man yuti' Allah wa rasul, jusqu'à la fin du verset de Suratul Nisa. Donc Ibn Abbas dit que les gens qui ont eu ce bienfait de la part d'Allah, ce sont les gens qui ont été élus, choisis par Allah pour l'obéir, pour faire les bonnes œuvres, comme les anges le font, comme les prophètes, comme les pieux, les véridiques, et comme les salihin, on a dit, comme les gens qui sont dans le droit chemin, les gens qui sont pieux. Donc ça, ce verset, quand on lit ce verset dans la salat, ou quand on l'écoute, qu'est-ce qu'on doit ressentir dans notre cœur quand on lit Sirat al-ladhina an'amta alayhim? On doit avoir tamanna, on doit avoir cet espoir, cette envie que ça, c'est le doua, ça. Le doua qu'on demande dans chaque Fatiha, sachant qu'Allah Azza wa Jal a dit que wa li 'abdi ma sa'al, et j'accorde à mon serviteur ce qu'il demande. Et ça, c'est le doua qu'on demande à la Fatiha. On doit avoir cette envie que, oh Allah, accorde-moi le tawfiq d'être dans le droit chemin, de rester dans le droit chemin, afin que le jour de Qiyamah, je sois parmi ces gens-là, parmi les proches, parmi les pieux serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Hada. Je pense que c'est suffisant pour ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim. Il y avait d'autres choses, mais sinon après on ne pourra pas tout compléter. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alors, ce verset, on le prend, le traite de manière très méticuleuse. Non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Donc là, il y a deux maslaks, il y a deux chemins. Allah Azza wa Jal montre le droit chemin, qui est un chemin qui est droit, Sirat al-Mustaqim. C'est un chemin qui est clair, qui est illuminé. Un chemin dans lequel il n'y a pas de doute, il n'y a rien de troublant. Il y a, tout est expliqué. Bayyin. C'est le chemin des croyants qui est construit sur les versets, les paroles d'Allah, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tout est clair dans la religion. Il n'y a rien d'ambigu. Et l'autre maslak, l'autre chemin, l'autre cheminement qui est un cheminement qui se dévie du droit chemin, du sirat al-mustaqim, c'est al-mahdoubi alayhim et al-dallin. Ça fait référence à ceux qui ont couru ta colère et les égarés. Et ce sont là deux qualités spécifiques à deux communautés qui ont existé, qui existent toujours, deux communautés, deux religions qu'Allah Azza wa Jal avait révélées à deux autres prophètes respectifs. Et ces personnes, ils avaient reçu un livre de la part d'Allah, le Taurat et le Injil, mais ils n'ont pas su comment suivre les paroles de leurs prophètes respectifs, ni suivre les écrits qu'Allah Azza wa Jal avait révélés. Et deux caractéristiques qui sont différentes, il y en a ceux qui ont encouru la colère d'Allah. Et pourquoi est-ce qu'ils ont encouru la colère d'Allah? Parce qu'ils connaissaient la vérité, mais ils ont fait preuve de inad, ils ont refusé de mettre en pratique. Et lorsque, il y a différents, subhanallah, différents versets, le verset ne me revient pas pour l'instant. Ce qui donc changeait les versets qu'Allah Azza wa Jal avait révélés, il y a des personnes qui étaient profondément corrompues et qui changeaient le contenu de ce qu'Allah Azza wa Jal avait révélé. Donc c'est des gens qui connaissaient la vérité, mais qui ne le mettaient pas en pratique ou qui essayaient de détourner le haqq, la vérité, pour mettre d'autres choses en pratique. Et ça, c'est une mise en garde. Si Allah Azza wa Jal rappelle le chemin, parce qu'il y a un proverbe en arabe qui dit que une des meilleures façons de connaître quelque chose, c'est connaître son contraire. Ma'rifatud did, connaître le contraire. Donc là, on connaît le droit chemin, c'est quoi? Mais Allah Azza wa Jal nous montre également le mauvais chemin. Et quand on explique à quelqu'un, voilà, il faut faire comme ça, et surtout ne fais pas comme ça ni comme ça. Là, tu comprends bien. Quand on t'explique, fais de telle façon, bah, tu vois en gros. Mais si on t'explique les deux façons qu'il ne faut pas procéder, bah, là, c'est clair. Il n'y a plus le moindre doute. Donc là, Azza wa Jal explique la maslak, le comment est-ce que Shaitan a induit en erreur de cette communauté qu'Allah Azza wa Jal avait donc envoyé sur ce dunya. Une de ces communautés ont fait preuve de ina, de désobéissance envers Allah Azza wa Jal, alors qu'ils connaissaient le haq, ils connaissaient la vérité. Et l'autre communauté, les égarés, ce sont des personnes qui ont mis en pratique, qui ont fait des bonnes œuvres, qui étaient peut-être bien intentionnées, mais qui n'avaient aucune connaissance, qui ont été égarés du droit chemin dès le début. Ibn Kathir, rahimahullah, privé d'être commenté, on va conclure. Ibn Kathir, rahimahullah, dit que Allah Azza wa Jal donne le détail de les deux chemins. Le droit chemin et les deux chemins, on va dire le chemin A, le chemin B, mais dans l'autre catégorie, ceux qui se sont détournés du droit chemin, pour que le croyant comprenne les erreurs à ne pas accomplir. Il dit que fa inna tariqata ahli al-iman mujtamala ala al-ilm bil haqq wa al-amal bihi. Ce qui caractérise les gens du droit chemin de Sirat al-Mustaqim, les Ahlul Iman, c'est qu'ils ont la science religieuse, ils ont le ilm et ils ont le amal, les deux en même temps. Ils savent c'est quoi le haqq, ils connaissent c'est quoi la vérité et ils le mettent en pratique. Alors que les mardoub alayhim, ceux qui ont couru la colère d'Allah, faqadu al-amal. Ils avaient la connaissance, ils savaient pertinemment quels étaient les versets qu'Allah avait révélés, Azza wa Jal avait révélés, mais ils n'ont pas mis en pratique, ils ont désobéi. Et l'autre, les ad-dallin, ceux qui sont égarés, faqadu al-ilm, ils n'avaient pas la science, ils ne connaissaient même pas comment pratiquer leur religion. Wa li hada kana al-ghadab. C'est pour ça que la colère d'Allah, la première catégorie était caractérisé par la colère d'Allah et l'autre par la perdition. لِأَنَّ مَنْ عَلِمَ وَتَرَكَ إِسْتَحَقَّ الْغَضَبِ. Parce que celui qui connaît et qui délaisse réellement, Allah Azza wa Jal serait et est en colère avec lui. هذا. Bon, puis la citation d'Ibn Kathir rahimahullah est très longue, mais on comprend que Allah Azza wa Jal montre le droit chemin, c'est quoi, comme on avait expliqué, c'est quoi Surat al-Mustaqim, et par opposition, ceux qui se sont égarés de l'objectif, ceux qui se sont éloignés de la révélation de ce qu'Allah Azza wa Jal leur avait accordé. Maintenant, ce qui est, on va dire, rassurant, c'est que, Inch'Allah, cette Ummah ne tombera pas dans les mêmes erreurs, globalement, de ces deux autres communautés. Pourquoi ? Parce que Allah Azza wa Jal a protégé le Wahi, le Qur'an. Ce qui fait que personne ne pourra changer le Qur'an, même un savant, même un grand mufti, un grand fundi ou je ne sais pas qui, il pourra jamais dire que voilà, le verset là, c'est pas bon, on va changer, parce que le contenu, il faut l'adapter par rapport à notre société ou autre chose. S'il y a une personne qui ose dire ça, le monde musulman se retourne contre lui. Ce qui fait que le Qur'an est protégé. Donc personne ne pourra induire en erreur une communauté, une population, un pays ou un village en détournant les versets du Coran. Parce que le Coran a reçu la garantie de protection de la part d'Allah Azza wa Jal, chose qu'on a maintes et maintes fois rappelée, alors que les autres livres, le Taurat, le Zabur, le Injil, les autres livres, n'ont pas reçu cette protection divine. Ce qui fait qu'il y a eu falsification. Et comme il y a eu falsification, les gens étaient égarés et ils ont voulu mettre en pratique plein de choses, mais à la base même, ils n'avaient pas les vraies informations, les vraies données. Et par la suite, quand on analyse leur pratique, ils se rendent compte qu'il y a des incohérences. Et quand ils analysent le sous, les versets, les textes qu'ils mettent en pratique, et ils se rendent compte que ces textes se déclinent en plusieurs versions, alors c'est un gros problème là. Les textes se déclinent en plusieurs versions et les versions sont différentes et certaines versions sont même opposées, contradictoires. Donc là, ils se rendent compte qu'il y a eu réellement un décalage par rapport à ce qui avait été révélé à le prophète. Et donc, ils s'en mêlent les pinceaux. Et puis, ceux à qui Allah Azza wa Jal a accordé la sincérité et le désir de chercher la vérité et qui font preuve d'humilité, parce que pour chercher la vérité, il faut faire preuve d'humilité. celui qui est rempli, qui est enflé d'orgueil, il cherchera pas la vérité. Il va dire que non, il connaît mieux moi. Ah, moi, il connaît tout. Non, 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 moi, ça c'est ma religion, la religion de mes parents, de mes grands-parents. Il n'y a rien à redire là-dessus. C'est moi-même, il connaît. Viens pas mailler, ne me parle pas d'islam ou autre chose. Ça, c'est quelqu'un qui est enflé d'orgueil, de takabbur. Alors que la personne qui a de l'humilité, il va rechercher la vérité. Il saura se remettre en question. Quand il va voir ses pratiques, on ne va pas donner trop de détails non plus, parce qu'après, on comprend. Donc, la personne va rechercher la vérité jusqu'à ce qu'elle trouve. Et si elle fait partie des gens pour lesquels Allah a écrit la hidayah, la personne va trouver la hidayah. Soit en fréquentant un groupe d'amis musulmans, ce qui est très souvent le cas, soit en écoutant quelque chose à la radio, à internet ou à la télévision, soit en lisant un Coran en français, et ça se produit très souvent. Beaucoup de gens qui se convertissent, quand on leur demande « comment est-ce que tu t'es converti ?», dit que « j'ai lu le Coran français ». Ou alors Allah met une lumière dans leur cœur. Allah les pousse, comme si c'était leur taqdir, c'était leur destin. Ils vont vers ce chemin-là. Et très souvent, et ça c'est inexplicable, ça Allah seul le sait pourquoi, quand une personne se convertit, très souvent, les personnes disent que j'ai commencé par jeûner le ramadan. Vous n'avez pas déjà entendu ça? J'ai commencé par jeûner le ramadan. Il n'est pas musulman, hein, mais il dit que c'est un ibadah, un acte d'adoration. Enfin, ils appellent pas ça un acte d'adoration. Pour eux, c'est quelque chose qui les plaît, qui leur plaît, ça leur parle, comme on dit. C'est quelque chose qui, pour eux, c'est symbolique. Le jeûne, c'est la spiritualité, la maîtrise de soi. Ils commencent par jeûner un mois, comme les musulmans, sans avoir iman, le même rythme. Et puis Allah Azza wa Jal leur accorde la guider, ils viennent voir un imam, un fundi, et ils lisent la shahada, ils deviennent musulmans. Et vous êtes conscients, nous tous conscients, les statistiques sont là aussi. Et c'est la parole, c'est l'annonce de la bonne nouvelle que le prophète Al-Sahab a fait à son époque, qu'il n'y a pas une religion où il y a le plus de personnes qui se convertissent que l'islam. Parce que ça c'est le haqq, c'est la vérité. La vérité elle est manifeste. Dans un monde d'obscurité où il y a d'hypocrisie, où il y a des choses qui ne sont pas bonnes, la lumière, elle est perceptible, elle est visible. Même si on essaie de la cacher. Le verset Abdul Malik, le verset où les gens essaient d'atténuer la lumière d'Allah. Yuriduna ay yutfi'u nur Allah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Il y a des gens, et ça, adib, ça depuis l'époque du prophète Ali salat wa salam, il y avait des gens qui essayaient de détourner les personnes, l'imam du droit chemin, etc. Allah Azza wa Jalla dit, ils vont essayer, en ce sens, hein, d'atténuer la lumière d'Allah, le Coran, ils vont essayer de dire d'autres choses, de faire en sorte de donner une mauvaise image du wahi, du Coran, de la religion. Mais Allah Azza wa Jalla a promis, wallahu mutimmu nurihi, qu'Allah Azza wa Jalla a promis qu'il va perpétuer sa lumière. Et nous voyons que jusqu'à maintenant, depuis, là on est en 1435, d'accord? Depuis 1435 années, le prophète Ali salatu wassalam a quitté Makkah pour aller à Madina, et donc il avait vécu encore 13 années avant à Makkah, ce qui fait 1435 et 13. Alors là on je ne sais pas quoi là, 1445, 1448 années. Ça fait que 1448 années que Iqra a été révélé, à peu près, d'accord? Et jusqu'à maintenant, on le lit dans la salat, jusqu'à maintenant, les gens lisent le Coran, jusqu'à maintenant, personne n'a pu changer un verset, ni atténuer cette lumière d'Allah Azza wa Jal, car c'est là la promesse d'Allah. Donc, ihdina as-sirata al-mustaqim, on a vu c'est quoi? Sirata alladhina an'amta alayhim, on a bien expliqué, et ghayril maghdubi alayhim wa ladh-dhalin, deux communautés qui se sont égarées, un, parce qu'ils ne voulaient pas mettre en pratique, alors qu'ils avaient la connaissance d'un verset, on qualifie également ces gens-là, كَمَثَلِي الْحِمَارِ يَحْمِلُونَ أَسْفَارًا. Si vous prenez un âne, un bourrique, himar, prenez un bourrique, vous mettez une sacoche, hein, comme on appelle ça, les trucs, pour qu'il porte des trucs, vous remplissez ce bourrique-là, vous mettez plein de livres d'encyclopédie et tout. Est-ce que c'est un âne savant? Ben non, il a tout ce qu'il faut. Il a encyclopédie, il y a Wikipédia imprimé en 4000 pages, il y a tout ce qu'il faut. Mais est-ce qu'il lit, est-ce qu'il connaît, est-ce qu'il met en pratique? Non. Une métaphore pour montrer que celui qui connaît, mais qui ne met pas en... Parce que le but, ce n'est pas de cumuler la science. Au contraire, cumuler la science est un grave danger. Cumuler la science, cumuler la science sans mettre en pratique, cumuler la science sans mettre en pratique, c'est un grave danger. C'est pour ça que le savant aura plus de comptes à rendre que le non-savant. Ah oui, le revers de la médaille. C'est ça que Allah, le Prophète dit, Al Quran hujjatun laka ou alayka. Le Quran, il est soit en ta faveur, soit il se retourne contre toi. Celui qui connaît les versets, qui, mashallah, mémorise, il a appris, il connaît le sens, mais il fait n'importe quoi. Il fait l'imbécile, il fait comme tout le monde, il va en boîte de nuit, il boit, il sort avec les filles, il fait. Bref, il ne mène pas une vie de droiture. Ce Quran se retournera contre lui le jour de Qiyam. Il y a beaucoup de gens qui sont fiers. Ah, mon garçon, il connaît le Coran par cœur. Il fait une vie hafez Coran et tout. Il est dans Jannah, et tout. C'est bon, c'est parti là. D'accord? Et mais il n'a pas mis en pratique. Il a écrit. C'est plus grave que celui qui connaît rien. Parce que lui, il a appris, il connaît, il a les versets du Coran dans le cœur. Et il va à l'encontre de tout ce qu'il a mémorisé. Aya. Verset par verset, il les contredit. Donc ça, c'est grave. Donc on voit un chemin à ne pas emprunter, c'est ceux qui ont la science, mais qui ne mettent pas en pratique. Inada. Ils se révoltent, ils n'acceptent pas les ordres d'Allah. Et Abdalin, les gens qui sont égarés par manque de science, par manque de connaissances, ils mettent en pratique ce qu'on leur a appris, sans connaître que tout ça n'a aucun, malheureusement, n'a pas de fondement authentique. Il y a eu donc des falsifications. Donc ça, c'est un message aussi pour ceux qui ont iman, attention de ne pas, attention à la pratique aveugle. Attention à la pratique aveugle. Et comme dans les textes de loi, je ne sais pas, c'est dans les films américains, ils disent ça quand ils arrêtent quelqu'un, ou je ne sais pas, c'est la loi vraiment, ou c'est la loi française, nul n'est censé ignorer la loi. Non, là, tu sais, vous ne parlez qu'en présence de vos avocats. Nul n'est censé ignorer la loi. Mais nul n'est censé ignorer le Coran et la Sunna. Parce qu'Allah Ta'ala dit au Coran, fas'alou ala dhikri, in kuntum la ta'lamou. Demandez les gens qui ont la connaissance si vous ne connaissez pas. Le Coran est là, la traduction est présente, les livres de hadith sont traduits là, pour la plupart en français, accessible. Donc on se doit de se renseigner. Et attention à une pratique aveugle. Qu'une personne, il fait n'importe quoi en se disant que ben, je croyais que j'ai toujours appris comme ça. Alors qu'il y a des savants qui sont présents, il y a des livres maintenant, mashallah, avec tous les moyens de télécommunication, avec les réseaux sociaux, avec les sites internet, on a possibilité d'accéder, mashallah. Nous-mêmes, parfois, pour faire des recherches sur un verset, un tafsir et tout, quand on est un petit peu, ou une traduction qu'on est un peu paresseux, on va pas ouvrir les livres, on va sur Google. Et des fois, on le dit de manière un petit peu, en plaisantant, mais effectivement, vous tapez un début de hadith sur Google, il vous donne la suite, les référents, les chaînes de narration, c'est ajib. Il y a même un wiki, pas Wikipédia, il y a un wiki islam, un truc comme ça, vous avez déjà vu? Islam ou Kia, mais qui est pas comment il appelle, Mais il y a des fois, vous tapez quelque chose, il vous envoie, oui, il y a un Wikipédia spécial islam. Cherchez. Peut-être parce que je tape en arabe, il faut voir. D'accord? Essayez de taper quelque chose en arabe, il vous ramène vers ce lien. Bref, s'il y a toutes les façons de connaître. Donc attention à l'absence de pratique avec la science, les al-mardoub alayhim, et attention à la pratique aveugle sans connaissance, parce que personne ne peut se dire que je ne connaissais pas alors que les moyens de connaître étaient disponibles. Et les savants, on va compléter, ils disent que maintenant, voyez, ceux qui seront le jour de Qiyam avec les prophètes, les martyrs, les véridiques et les gens pieux, est-ce que on ne souhaite tous pas être ressuscités avec eux? Oui ou non? C'est le rêve de tout le monde. Le jour de Qiyam, on est ressuscité. On a Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, Moussa bin Umair, Abdullah bin Mas'ud, Abu Huraira, et ainsi de suite. Tous ces sahaba, les tabi'in qui sont là, on se retrouve avec eux. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal nous a considérés comme parmi les pieux. Et on est avec eux. Ça, c'est le plus grand cadeau de la part d'Allah Azza wa Jal. Alors que d'autres seront ressuscités avec Qarun, Haman, Fir'aun, avec des foussins, avec des hypocrites, avec des pécheurs endurcis. Parce que chaque personne sera ressuscitée avec ses semblables le jour de Qiyam. Avec ses semblables le jour de Qiyam. D'où le verset وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. En commentaire, certains mufassirin expliquent que les gens seront ensemble par couple, par groupe, le jour de Qiyam. Donc les mufassirin disent que, voyez, tandis que d'autres personnes, certaines personnes seront sous l'ombre du trône d'Allah, d'autres seront ressuscitées comme des personnes fous, comme des personnes envoûtées, parce que, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont consommé de l'intérêt de ce dunya. الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ. C'est des personnes qui ont eu recours, qui ont rendu licite le haram, l'intérêt, et ils sont ressuscités avec ces personnes-là, comme des personnes qui sont fous, des personnes qui sont possédées. Déshonneur total devant l'humanité, alors que d'autres seront sous l'ombre du trône d'Allah. Donc, en conclusion, les Mufassirin expliquent à nous de choisir dès maintenant quel mode de vie on va appliquer. Quel est le mode de vie qu'on va choisir pour, Inch'Allah, décider avec qui on veut être ressuscité le jour de Qiyamah. Et il donne en explication, en conclusion toujours, il dit surtout, il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver qu'on va vivre comme tout le monde. On va vivre comme les personnes qui n'ont pas la foi. On va s'amuser, je veux dire, comme les gens qui n'ont pas la foi. Pas de salat, pas de lecture du Coran, pas de dhikrullah. On fait le haram, on est dans le péché du matin au soir. Le zina, l'alcool, l'adultère, la drogue, le je ne sais pas quoi, l'intérêt, tous les péchés du quotidien, la musique et ainsi de suite. Et après, comment est-ce qu'on peut espérer être ressuscité auprès des pieux, Abou Bakr, Omar, Uthman, Ali, les grands pieux, les grands saints de l'islam? Ce serait totalement incohérent, ce serait illusoire. Donc chacun choisit dès maintenant quel chemin il emprunte pour savoir comment, Inch'Allah, il voudra être ressuscité, Inch'Allah, le jour du Qiyamah. Voilà. Et donc en conclusion, magnifique conclusion d'Ibn Kathir, il résume, et c'est un résumé aussi pour nous, « Ishtamalat hadhihi surah » en étudiant Al-Fatiha, et le premier tafsir qu'on a utilisé, c'est un contemporain, et d'une parole ici qui est une belle parole de remplie d'humilité. Il dit, وَعَلَى كُلِّ حَالِ السُّورَ هَذِهِ عَظِيمًا. Il dit que cette surat, elle est exceptionnelle, magnifique. وَلَا يُمْكِنُ لَا لِي وَلَا لِغَيْرِي أَنْ يُحِيطَ بِمَعَانِيهَا الْعَظِيمًا. Et il m'est impossible à moi, l'auteur il explique, ou à n'importe quelle personne, de donner une explication complète de Al-Fatiha. C'est impossible. Tellement c'est un surat qui est puissant, rempli de sens, il est impossible en quelques pages de résumer la profondeur de Al-Fatiha. Ibn Kathir dit que donc à travers ces 7 versets, comme on l'avait dit en introduction, c'est une surah qui est complète. À travers ces 7 versets, on a vu comment faire les louanges d'Allah, on a vu les qualités, les sifat d'Allah Azza wa Jal, on a vu également le rappel de l'au-delà, le rappel, la réalité du Qiyamah, le retour auprès d'Allah, la réalité des comptes du Hissam, la réalité également du tribunal d'Allah, de la justice suprême qui aura lieu dans l'au-delà. On a vu également comment est-ce qu'un serviteur doit se soumettre à Allah et lui demander, orienter nos demandes vers Allah Azza wa Jal et être conscient de وَالتَّبَرُّ مِنْ حَوْلِهِمْ وَقُوَّتِهِمْ, être conscient que ce n'est pas ma science, ni ma force, ni mon envie qui va m'amener vers les bonnes œuvres, mais c'est uniquement si Allah m'accepte. C'est pas parce que je porte tel nom, j'ai tel titre, que absolument je vais être un homme pieux, je vais faire de bonnes œuvres toute ma vie. C'est uniquement si Allah m'accepte. C'est pour ça qu'on demande, oh Allah, aide-nous. Iya wa iyaka nasta'in, pour faire son ibadah. On voit également ikhlas al-ibadati lillah, et ça on avait vu dans bismillah, on avait vu de al Alhamdulillah, on a vu dans Iyaka Na'bud, on a vu dans Iyaka Nasta'in, et ainsi de suite. On voit l'unicité d'Allah, la sincérité de le culte d'Allah, l'unique fi uluhiyatihi, dans son adoration. On avait vu également l'importance de demander la hidayah dans Ihdina Sirat al-Mustaqim. On voit autant de fois, on le répète, ça prouve que c'est quelque chose d'essentiel. Autrement, Allah Azza wa Jal n'aurait pas demandé aux croyants de le lire tous les jours. On voit également le droit chemin, c'est quoi? Et on voit le chemin des égarés, pour ne pas suivre le chemin des égarés. Et on voit l'exemple des pieux, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les gens, les salihin, avec At-Targhib fil A'mal as-Salihah, ce qui motivera quand le croyant va lire Ihdinas Sirat al-Mustaqim, Sirat al-Ladhina an'amta 'alayhim, dans son cœur, il y aura une motivation. Je veux être comme eux, et donc je vais être avec eux le jour de Qiyamah. Et At-Tahdhir, At-Targhib, attention, les Al-Maghdoub 'alayhim et Ad-Dallin, ils ont fait telle erreur, c'est une mise en garde, et le croyant va donc faire le maximum d'efforts pour s'éloigner de ces deux mauvais chemins. Avec ça, Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, on a vu de manière, on va dire, en résumé, un mukhtasar, le sens des 7 versets d'Al-Fatiha, avec pour objectif d'essayer de se rappeler de ce qui a été dit, afin qu'on puisse vivre ces versets lorsqu'on lit le Coran, on lit Al-Fatiha dans la lecture normale, ou qu'on entend le imam lire, ou que nous-mêmes nous lisons dans la salah. Et également, vous savez que lorsque la Fatiha a été lue, il est sunna de dire Amin. Hadith de lequel de Buhureira رضي الله عنه ذو لك القفاة عليه الصلاة والسلام دي إذا أمن الإمام فأمنوا lorsque le imam dit amin, vous aussi dites amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadith Bukhari et de Muslim, parce que il dit que car celui dont le Amin coïncide avec le Amin des Malaïka, ses péchés seront pardonnés. Et là, ça nous donne une indication très importante que quand on a une salat en congrégation Jamad, en plus des hommes qui sont présents, qui c'est qui est là? Les malaïkas. Ils disent Amin également quand le imam va dire Amin. Et donc ça, déjà, on est conscient que comment il était important de faire namaz en jamaat. La salat en jamaat. Parce qu'on aura la possibilité d'avoir le Amin des malaïkas et de voir nos péchés pardonnés. Ça, c'est une grande faveur de la part d'Allah. Mais également, ça nous fait prendre conscience, et ça c'est une parenthèse à côté, qu'il y a des anges qui sont présents dans toutes les masajid. D'où l'importance du respect de la masjid. La masjid, c'est un endroit qu'on doit respecter. C'est pas un endroit où on vient, on s'assoit n'importe comment, on va rigoler, on va parler de choses, de dunya. Ce serait là un manquement envers la masjid. C'est ça que quand parfois on entend, une fois des personnes dans la salah, le GSM sonne, et parfois quand ça sonne, c'est de la musique. Quand c'est une petite tonalité, comme ce matin Fajr, ça allait. Tout le monde l'a entendu. Vous croyez qu'on n'entend pas Fajr, c'était juste là. D'accord? Ça allait. Et quand c'était Salat al-Dhuhr, c'était quand même un petit peu plus de mélodie. C'était de l'autre côté là-bas, deuxième saf, derrière à droite. C'était dans l'angle mort. D'accord? Bon. Oui, mais tout ça, c'est des manques de respect. Vous avez des malaïkas qui sont présents. Et ben, encore, c'était gentil. Mais il y a des fois, il y a des gens qui mettent des sonneries rasta, des sonneries de je ne sais pas quoi. La hawla wa la quwwata illa billah. Les malaïkas qui sont présents, ils viennent pour dire Amin avec le imam. Comprenons que c'est là un manque de respect. Manque de respect également quand on est dans une masjid. Si des gens ils font du bruit, ils font du tapage, ils parlent à l'extérieur, même aux alentours, ce qui trouble les gens dans la salah. Ça aussi c'est grave. Ça on met les personnes dans taklif, dans une difficulté. Donc bref, c'est pas le message le plus essentiel. Ce qui nous intéresse, c'est que les anges disent Amin avec le imam à la fin de Al-Fatiha. Et donc ça c'est le message principal, mais ça c'est une parenthèse sur le respect de la masjid. On doit donc prendre conscience qu'après le Al-Fatiha, il est donc sunna de dire Amin. Et une deuxième version d'imam muslim, d'Abu Moussa, je pense que c'est Abu Moussa al-Ash'ari, radiallahu anhu marfou'an, selon que le Prophète aurait dit, إذا قال يعني الإمام ولا الضالين فقولوا آمين يحببكم الله dit آمين الله عز وجل vous aimera. Donc là aussi c'est une occasion qu'on peut avoir en faisant la salat en jama'a. Qu'Allah ta'ala donne tawfiq de comprendre ces quelques paroles, qu'Allah nous pardonne pour nos erreurs, nos manquements, hein, le manque de respect qu'on a eu envers Al-Fatiha, parce qu'on parle, on explique, mais on n'arrive pas à 1%, 1 millième du sens de Al-Fatiha. Donc parfois on dit qu'on va comprendre Al-Fatiha en 7 jours, mais c'est un petit peu prétentieux, hein, on va pas tout comprendre, mais on a une ébauche de compréhension, on voit un petit peu qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal veut dire, et vous voyez ce petit peu-là, comment c'était nécessaire d'expliquer, on essaie de continuer en 15 minutes, mais c'était pas possible, parce que mes chers frères, le Coran c'est magique. Le Coran, c'est la parole d'Allah, la parole du Créateur. Et quand on essaie de découvrir, plus on avance, plus on défriche. À fin de mesure, on lit, et on s'est limité d'abord à un tafsir contemporain. D'accord? Ensuite, quand on passe à la vitesse supérieure, on va Ibn Kathir. Il y a tellement d'explications qu'à un moment donné, on se dit, on arrête. Autrement, ça devient quoi, magistral, le tafsir? Et si on a d'autres livres encore, Qurtubi, Baydawi, Al-Fakhr al-Razi, d'autres choses, ça, mashallah, inversé, ça peut prendre des mois et des mois. C'est le seul livre qui est aussi vaste, c'est le Coran. Aucun autre livre ne peut avoir autant de commentaires aussi puissants, commentés par des hadiths, par des paroles de savants, par des tabi'in, par des sahaba. C'est toute la beauté. J'espère qu'à travers cette semaine qu'on a passée ensemble, à travers le Fatiha, ça va ouvrir nos cœurs, ça va nous donner envie de plus connaître le Coran, de plus connaître le tafsir, que chacun fait l'intention, Inch'Allah, d'essayer d'apprendre régulièrement ma'ani, l'essence du Coran. Il est inconcevable qu'un musulman il lise Alhamdou toute sa vie sans comprendre. Ça c'est pas un péché, mais c'est un manque. C'est une lumière dont on se prive, alors qu'on a beaucoup de moyens. Il n'y a même pas besoin qu'il y ait un savant. On peut aller, comme on l'a dit sur Internet ou autre chose, trouver des livres en français. Ibn Kathir, par exemple, est traduit en français, une traduction qui est correcte. On peut apprendre et il est nécessaire de continuer à apprendre. Qu'Allah Azza wa Jal fasse entrer la lumière de tout ce qu'on a dit dans nos cœurs, nous permette de mettre en pratique et nous accorde encore plus de dévotion, de concentration dans nos salats, et que la lumière de Fatiha illumine notre vie jusqu'à devenir notre akhlaq, kana khuluquhu al-Qur'an. Inch'Allah, à partir de lundi prochain, On va reprendre, donc c'est la rentrée, d'accord. Et on va reprendre Riyad al-Salihin, où on s'était arrêté. Qu'Allah Azza wa Jalla donne tawfiq. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Zakumullah.